Ce texte a été rédigé par une étudiante en droit sous la supervision d'une notaire-superviseur. Il ne s'agit pas d'un conseil ou d'un avis juridique. Les différentes cours et le déroulement d'une audience en matière criminelle. Tout d'abord, lorsque les policiers sont informés qu'une infraction a été commise, ils procèdent à l'arrestation du prévenu. Ils envoient par la suite le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales, aussi appelé le DPCP. Si le DPCP choisit de poursuivre le prévenu, il devra déterminer les chefs d'accusation que l'on reproche au prévenu. Il peut y avoir plusieurs chefs d'accusation à la fois s'il y a plusieurs actes criminels reprochés. Il existe deux modes de poursuite. Pour les infractions sommaires, le DPCP poursuit par voie sommaire, ce qui entraîne des sanctions moins sévères. En effet, la personne coupable est passible d'un maximum de 2 ans d'emprisonnement ou elle est passible d'une amende. Dans ce cas-là, ce sont les cours municipales qui ont compétence et la dénonciation tient lieu de l'acte d'accusation. Pour les actes criminels, le DPCP poursuit par la mise en accusation. Les sanctions sont alors beaucoup plus sévères. Dans ce cas-là, 2 cours ont compétence, soit la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, ainsi que la Cour supérieure. Lorsque le prévenu est accusé d'un acte criminel dans la catégorie des moins graves, le procès aura lieu devant un juge. Si le prévenu est accusé d'un acte criminel dans la catégorie des plus graves, par exemple le meurtre, le procès aura lieu devant un juge et un jury. Pour les autres actes criminels, le prévenu peut choisir entre un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury. Toutefois, le DPCP peut quand même exiger qu'un prévenu soit jugé par un juge et un jury, et ce, peu importe le choix de ce prévenu. L'infraction reprochée doit cependant être punissable d'un emprisonnement de plus de 5 ans. La Cour du Québec peut entendre toutes les causes, sauf celles qui se déroulent devant un juge et un jury, et les causes qui sont exclusives à la Cour supérieure. Ainsi, la Cour supérieure entend toutes les causes qui se déroulent devant un juge et un jury. Lorsqu'il s'agit d'une infraction qu'on appelle mixte, c'est le DPCP qui choisit le mode de poursuite entre la voie sommaire ou la mise en accusation. Dans le cas où il y a un jury, celui-ci est composé de 12 membres et leur verdict doit être unanime. Ils resteront 12 du début à la fin, à moins que le juge décide qu'un membre ne peut plus continuer à siéger dû à une maladie ou à une autre cause raisonnable. Selon l'article 486 du Code criminel, l'audience doit être publique. Cependant, il y a des exceptions à cette règle. D'abord, le juge peut ordonner le huis clos. Autrement dit, on exclut de la salle d'audience l'ensemble ou quelconque membre du public pour assurer la bonne administration de la justice. Le juge peut également exiger le retrait des témoins de la salle d'audience. Il est important de savoir que le prévenu doit être présent à la cour tout au long de son procès. Il doit non seulement être présent physiquement ou virtuellement, mais également être capable de comprendre le déroulement du processus judiciaire. Encore une fois, il existe des exceptions à cette règle. Par exemple, le juge peut décider d'exclure le prévenu de la salle d'audience pendant l'examen de la question de son aliénation mentale s'il pourrait y avoir des effets préjudiciables pour lui. La comparution est la première audience. Il s'agit de la lecture de la dénonciation ou de l'acte d'accusation. C'est à ce moment que le prévenu plaidera coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, le juge pourra dès ce moment déterminer sa peine. S'il plaide non coupable, il y aura une audience afin que le procureur aux poursuites criminelles et pénales prouve la culpabilité du prévenu hors de tout doute raisonnable. Entre la première comparution et le procès, il est possible qu'il y ait une enquête préliminaire pour les actes criminels graves, comme le meurtre par exemple. Cela permet de savoir s'il y a suffisamment de preuves contre le prévenu et aller de l'avant avec le procès. C'est le procureur aux poursuites criminelles et pénales, autrefois appelé le procureur de la couronne, qui débute le procès par la présentation de sa preuve. Après qu'il ait interrogé ses témoins, ceux-ci peuvent aussi être interrogés par l'avocat de la défense, c'est ce qu'on appelle le contre-interrogatoire. Lorsque le procureur aux poursuites criminelles et pénales déclare que sa preuve est close, c'est au tour de l'avocat de la défense de faire la présentation de sa preuve s'il le veut, car il faut savoir qu'il n'est pas obligé de présenter une défense. Le prévenu peut décider de témoigner ou non, étant donné qu'il a le droit de garder le silence tout au long du procès. Toutefois, s'il décide de témoigner, le procureur aux poursuites criminelles et pénales pourra l'interroger comme n'importe quel autre témoin. Après sa preuve close, si l'avocat de la défense soulève des éléments nouveaux que le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne pouvait pas prévoir, celui-ci pourra répondre à ces nouvelles preuves. C'est ce qu'on appelle la contre-preuve. Ensuite, ce sont les plaidoiries, c'est-à-dire le moment où les avocats présentent leurs arguments au juge. Enfin, le juge doit rendre son jugement sur la culpabilité. Si le procès s'est tenu devant un juge et un jury, celui-ci devra donner son verdict. Le juge doit décider si le prévenu est coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation. Le prévenu sera coupable si le procureur aux poursuites criminelles et pénales a réussi à convaincre le juge ou le jury de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le juge peut rendre son jugement immédiatement ou en délibéré, c'est-à-dire à une date ultérieure. Lorsque le jugement est rendu, le juge devra également imposer une peine à l'accusé. Habituellement, la détermination de la peine se fera lors d'une autre audience. Si l'accusé croit que le juge a fait une erreur dans son jugement, il sera possible d'en appeler. Ainsi, la cour d'appel pourra décider de confirmer ou d'annuler le jugement ou bien d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Le délai pour en appeler est de 30 jours suivant la date du jugement. C'est dans l'affaire Jordan qu'on a imposé un plafond pour ce qui constitue un délai raisonnable. En effet, le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès doit être d'un maximum de 18 mois pour les causes devant la Cour du Québec et d'un maximum de 30 mois pour les causes devant la Cour supérieure. C'est tout pour cette capsule. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Vous pouvez communiquer avec une avocate ou un avocat pour plus de précisions. Merci beaucoup.